Un peu de soleil dans votre cœur, mais peut-être le teint un peu brouillé. Il y a des jours où on est très éveillé, des jours où en se regardant dans le miroir, lorsqu'on est femme, lorsqu'on est belle, on se dit que pour garder ce teint clair, qui, en tout cas au 18e et peut-être jusqu'à Coco Chanel, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, va prendre l'habitude de garder ombrelle, de refuser de rougir. Ah, il n'y a pas que les pays du Nord qui aimaient la blancheur, je crois que c'était vraiment l'apanage de toute femme élégante, je le répète, jusqu'au bronzage, jusqu'à Coco Chanel. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jean Adorne et nous allons commencer, c'est plutôt intriguant, par une recette qui nous fera déjà un peu voyager. C'est une recette d'eau de toilette du 18e siècle, un voyage, je dirais même un pigeon voyageur. C'est une façon un peu curieuse de démarrer sur cette eau de pigeon qui sera notre thème. Attention, préparez vos crayons, c'est une recette qui sort de l'ordinaire. Jean Adorne, je vais me permettre, avant de vous laisser la parole, de décrire un peu cette eau de pigeon, parce que c'est vrai que c'est une longue recette, on l'a retrouvée dans un ancien périodique, je crois de 1755, une recette où on mêlait ensemble l'eau de nénuphar, l'eau de fèves, l'eau de melon, l'eau de concombre, du jus de citron, et on en mettait une once chaque fois, et puis une petite pincée de brionne. Là vous me direz ce que c'est que la brionne. Il y a de la chicorée sauvage, des fleurs de lys, des fleurs de bourrache, des fleurs de fèves. On rêve déjà un peu, mais ce qui est très intriguant, c'est le moment où l'on prend 7 ou 8 pigeons, on ne déclare pas exactement s'il en faut 7 ou 8, ça dépend si vous aimez le 7 ou si vous aimez le 8. Là, je crois qu'il y a presque un côté magique, il faut qu'ils soient blancs. On va les plumer, Bon, d'abord, il faut leur enlever la tête, ça ne sert à rien, on leur enlève le bout des ailes. Et le reste, vous allez le hacher menu, et là, ça commence à être intéressant. On va mettre tout cela dans un alambic avec des ingrédients que vous avez préparés tout à l'heure. Et vous allez ajouter à tout ce mélange du sucre royal en poudre, un peu de borax, du camphre, de la mie de 3 petits pains blancs. On dit même qu'il faut qu'il fasse une demi-livre, donc là vous voyez qu'effectivement on en a bien 3 livres, et il faut les prendre lorsqu'ils sortent du four, hein. Attention, quand ils sont encore bien chauds, vous allez rajouter une chopine de bon vin blanc, vous laissez digérer, ça je trouve le terme extraordinaire, ces matières dans l'alambic pendant 18 ou 20 jours, ça se complique, ça devient long, et vers la fin du mois, eh bien, on va distiller le tout, et l'eau qui en provient, elle sera mise dans des vaisseaux propres, et ça c'est beau aussi parce qu'il faut servir tout cela, et avant de s'en laver le visage, mesdames, il faudra avoir soin de vous dégraisser auparavant avec une composition qui est encore bien curieuse, puisqu'il faut, une fois de plus, de la mie de pain de seigle, toujours sortant du four, bien chaud, parce que le pain chaud, ça doit avoir une vertu, je pense. Il y a le blanc de 4 œufs bien frais, et puis encore une petite chopine, mais pas de vin, cette fois, vous allez prendre du vinaigre, vous battez bien le tout ensemble, et vous passez ensuite dans un linge, et l'usage de ces deux recettes que je viens de vous donner, que j'ai retiré des grimoires de Jean Adorne, vous nettoie admirablement la peau, l'entretient bien fraîche et surtout la blanchit et l'empêche de se rider. C'est tout un voyage. Vous pouvez d'ailleurs prendre le prochain wagon-lit, un Trans-Europe Express, aller jusqu'à Istanbul, vous garderez votre teint blanc à la perfection. Plus je me retrouve en face de vous, Jean Adorne, à jouer les longs cours à coups de parfum avec un nez, moins je trouve cela normal. C'est-à-dire les distances deviennent de plus en plus courtes et j'avoue que le parfum en soi, une description comme les deux recettes que l'on vient de donner, ça nous fait rêver en même temps. J'entends, c'est un autre âge et en même temps, rien que les ingrédients, vous vous imaginez immédiatement un déplacement dans l'espace parce qu'on sent ce pain, on sent ce vinaigre, on sent ce vin, on imagine ces pauvres petits pigeons découpés.
Oui, mais avouez qu'on est vraiment très loin de la cosmétique moderne.
Ah, moi je trouve ça pas.
Je ne sais pas.
C'est vous qui le dites.
C'est une recette qui tient de la cuisine plus qu'autre chose. D'ailleurs, il y a celle que vous avez lue est une des versions. Il y en a d'autres encore plus éblouissantes parce qu'il faut, si je puis dire, parce qu'il faut se servir du sang pour le fait. Il faut le faire macérer également dans de la farine. On arrive à une espèce de boudin. Puis ensuite, on se badigeonne avec. Et puis après, on fait toutes les décoctions nécessaires pour reblanchir la peau en quelque sorte. Cette sorte de cosmétique a eu son heure de gloire. Et d'ailleurs, cette recette que vous avez, décrite est essentiellement provient très probablement du nord de l'Europe. Et on a beaucoup dit qu'elle venait du Danemark. Et je crois que c'était surtout destiné à conserver la blancheur du teint, qui était naturelle chez les Danoises, parce que ce n'est pas le soleil qu'on y trouve qui est tellement ardent.
Attention, si nous avons une Danoise à l'écoute, elle va vous dire qu'au Danemark, il fait beau plusieurs jours par année.
Oui, mais les UVB, les UVA se perdent un petit peu dans l'atmosphère, un peu trop, épaisse, vu l'orientation du soleil. C'est clair qu'on bronze, et je ne vous fais pas un dessin, on bronze beaucoup mieux sur le soleil d'Afrique, en tout cas beaucoup plus vite.
Shakespeare le savait déjà.
Voilà. Mais pour revenir à ces recettes de cosmétiques mi-culinaires, mi-produits de beauté, j'ai dit, elles ont eu leur heure de gloire, et ça a duré assez longtemps, parce qu'on se retrouve déjà, encore, je veux dire, à la fin du 19e siècle et tout au début du 20e, avec des choses relativement similaires, toujours avec des ingrédients culinaires qui sont utilisés, notamment la mie de pain est utilisée parce qu'elle a très probablement un pouvoir dégraissant, absorbant, ça fait un peu éponge. Mais les pigeons, on les a perdus en route.
Oh, je vous dirais que c'est pas dommage pour les pigeons, ces pauvres bestioles.
Oui, imaginez.
Moi, je suis très intrigué de penser qu'à partir d'une recette comme celle-là, on puisse rentrer dans la parfumerie, justement. Parce qu'au fond, les produits que vous utilisez parfois, et ce sera peut-être un peu le thème là, j'avais juste une question là, étymologique. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de concombre, de citron.
Mais Brionne.
Qu'était la Brionne, oui, justement.
À ma connaissance, je crois que c'était une variété de salade.
Ah d'accord.
Une variété.
Alors c'est vraiment de la cuisine.
Qui devait ressembler un peu à la mâche ou ce qu'on appelle ici l'encre.
C'est pour ça qu'on y rajoutait de la chicorée sauvage et des fleurs de lys. C'est un peu de bourrache avec des fleurs de fève. Mais quand on parle de cuisine, et c'était un peu mon envie pour aujourd'hui, c'est au fond en revenant au parfum et je dirais aux distances qui obligent à retrouver certains ingrédients. Alors si on pouvait traiter, je ne sais pas, le cumin, le persil, la carotte, la sauge ou le thym, bizarrement je sais que ces ingrédients, ces légumes ou ces épices rentrent dans la composition des tout grands parfums.
Oui, la frontière d'ailleurs entre la cuisine, les produits utilisés en art du parfum et l'art culinaire, elle est très très,
c'est une frontière très ténue.
Rapprochée. Mm-hmm. C'est une frontière qui n'a vraiment pas de grande barrière. D'autant que même s'ils sont utilisés en très petite quantité, il y a, et c'est ce que vous venez d'énumérer, un certain nombre d'épices qui sont utilisés pour donner des effets très spéciaux dans certains parfums, notamment, et c'est beaucoup venu avec les parfums masculins.
Quand vous dites parfum masculin, c'est parce qu'effectivement, on a tout à coup transformé un peu la façon de sentir les choses ?
Non, je crois qu'on a une image, peut-être fausse d'ailleurs, on a une image peut-être fausse du parfum. Du parfum destiné aux hommes, une image fausse, on le veut plus viril, ça. Mais disons plus porté sur la vie active et peut-être moins de rêverie. Alors on aboutit à des harmonies basées sur des notes qui évoquent l'homme qui fume et qu'on appelle tabac, c'est la note olfactive, j'entends, qui est un peu tweed, un peu tabac, un peu l'arôme olfactif que peut avoir la veste, les habits d'un homme qui fume.
Ou une bibliothèque lorsque voilà. L'on...
Mais ce n'est pas nécessairement tabac, ça peut être toute une espèce d'environnement. Et pour donner un peu plus de brillant à cette harmonie, on a trouvé soit les odeurs, ce qu'on appelle agreste, lavande, romarin et myrte, et puis les odeurs aromatiques qui sont au fond des plantes culinaires. Et vous avez cité le cumin, le poivre, le piment, encore que par cumin il faille distinguer deux choses, le cumin et le carvi.
Si nous parlions un peu de ce cumin là après peut-être juste une petite vague musicale. Thank you. Pas envie de... Non, il y a des fois des petits objets comme ça qu'on trouve. On a parfois l'envie de croquer. C'est vrai que le cumin, c'est un peu cela. Hein. On prend un peu de cumin dans ses doigts et puis on goûte, on croque et immédiatement on voyage, on pense à quelque chose. Mais si aujourd'hui nous reparlons avec Jean Adorne de ces parfums, si cette note un peu virile intervient par rapport aux ingrédients que nous sommes en train d'utiliser, je crois que le cumin, justement... Enfin, vous citiez deux termes par rapport au cumin.
Je disais encore qu'il faut s'entendre par cumin, parce qu'il y a deux graines extrêmement voisines, deux graines de forme et d'aspect extrêmement voisins, qui sont l'une le cumin, qui contient des produits à l'odeur très caractéristique que l'on trouve notamment dans la cuisine nord-africaine. C'est une des épices très très prisées et qu'on trouve aussi dans l'art culinaire hollandais également. Ce cumin a une odeur relativement amère qui sent un petit peu même plutôt désagréable, en fait.
Tout à fait.
La punaise écrasée.
Moi, je dirais carrément, par exemple,
l'insecte, j'entends.
Oui, bien sûr. Entre coriandre et cumin, je pense toujours à quelque chose, et surtout dans les pays d'Afrique du Nord, et ce n'est pas une connotation par rapport à eux-mêmes, mais quand on rentre dans un marché au Maroc, on se dit, tiens, quelque chose de suranné, quelque chose de je dirais même la sueur.
Oui,
quelque chose...
Vous avez mis le doigt exactement sur ce que j'allais dire, c'est-à-dire que le cumin apporte à la parfumerie, c'est justement ce petit plus qui fait que le parfum n'est pas quelque chose de trop BCBG, si je puis dire, mais qu'il a plus de vie. Et justement parce qu'il a un soupçon de direction dans la sueur de quelqu'un qui travaille. Et on en tire, avec des procédés chimiques, on en tire des produits qui carrément sentent la sueur et que l'on peut utiliser avec cette intention.
Je crois savoir, enfin, j'ai gardé quelques notes d'un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. Je crois que nous nous sommes échangés, c'est ce livre sur les sens. Et je retombe sur une petite note que j'avais relevée, parce que c'est vrai de penser, à propos de cette sueur, qu'à l'époque d'Elisabeth, cette fameuse Elisabeth Ière d'Angleterre, les amants échangeaient ce qu'ils appelaient des pommes d'amour. On utilise encore ce terme, d'ailleurs. Et la femme gardait, en fait, sous son bras, sous son aisselle, une pomme pelée, jusqu'à ce qu'elle soit bien gorgée de sa sueur, et la donner ensuite à respirer à son amant. Ça, vous voyez qu'il y a des coutumes quand même assez étranges, et aujourd'hui les industries, ben, je crois que c'est vrai qu'elles se consacrent en fait à supprimer certaines de ces odeurs naturelles ou corporelles en les transformant par des odeurs artificielles. Mais au fond, on en a besoin, parce que j'avais lu d'ailleurs dans le même ouvrage quelque chose qui m'avait beaucoup touché, on en a peut-être déjà parlé, c'est le fait justement que par exemple des femmes mises ensemble ou dans un couvent, lorsque des nonnes vivent ensemble ou des jeunes femmes dans une colonie de vacances pendant plusieurs semaines, eh bien, toutes se remettent à l'heure par rapport à leur menstruation, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et on a remarqué que cette pendule organique n'existait pour les femmes qu'en fonction de leur odeur, c'est-à-dire de leur sueur. Et que c'était simplement deux sœurs, par exemple, qui dorment dans la même chambre, sont toujours réglées au point de vue organique de la même manière. C'est une sorte de d'écart que je viens de faire, mais au fond, si vous utilisez des odeurs qui sont proches de cette agression de l'odeur corporelle, c'est parce qu'il y a quand même une attirance en même temps.
Certainement, je pense qu'on place le parfum dans son cadre qui, au fond, est à la base même de son essence, c'est-à-dire un cadre plus de vie, un cadre d'attraction, un cadre de d'aucuns vous diraient on se met un masque en se parfumant. Transforme sa personnalité. Mais c'est clair que l'objectif, c'est de plaire. Et qu'on peut plaire, on peut avoir une attractivité supplémentaire avec même des odeurs qui ont une petite impression d'une sueur. Ça fait partie, je crois, de la construction d'un parfum qui se veut précisément attractif.
Depuis que nous communiquons, parce que ce n'est pas notre premier rendez-vous à travers... le voyage et les parfums. C'est vrai qu'au fond, j'analyse maintenant les parfums un peu différemment et j'ai remarqué dans certaines nouveautés américaines, par exemple, quelque chose qui m'avait beaucoup attiré. Là, je suis rentré, je rentre toujours du Mexique, mais toute l'Amérique en ce moment est envahie par un parfum de Monsieur Klein qui a une odeur très étrange. Et j'ai mis très longtemps à savoir pourquoi j'étais complètement fasciné par ce parfum. Et c'est un peu le même problème que tout à l'heure. Oh, ceci va être peut-être plus proche du souvenir d'une femme, mais il y a des marques de couches culottes pour enfants qui ont des odeurs. Et en l'occurrence, je crois qu'on force souvent dans l'industrie aussi certaines odeurs. Et là, je peux les citer. Les Pampers ont vraiment une odeur acide très curieuse, qui doit d'ailleurs permettre de voiler une autre odeur, bien sûr. Et en même temps, quand on se retrouve vis-à-vis d'un parfum, tout à coup, on repense à une odeur caractéristique. Et là, en l'occurrence, si vous sentez, par exemple, la tête d'un bébé qui a bien dormi, il a cette odeur de sueur assez curieuse. Et l'odeur d'un bébé a quelque chose d'un peu acide, comme cela, qui est très poussé, mais qui est très agréable en même temps. C'est quelque chose qui remonte très loin. Et un parfumeur, est-ce qu'il est censé savoir qu'il recherche, ou c'est simplement par son instinct qu'il retrouve parfois cette petite touche qu'il va rajouter à un parfum ?
Je crois qu'il le recherche volontairement, et que justement il y a un éventail de notes olfactives qui permettent cette impression, qui sont du domaine justement des épices. Et allez savoir pourquoi, mais c'est plus dans ce domaine-là qu'on trouve des odeurs qui peuvent éventuellement ressembler à ce que le parfumeur peut rechercher, c'est-à-dire une odeur qui pourrait être qualifiée de sui generis.
Je comprends, mais est-ce que justement cette subjectivité, parce que c'est subjectif de décrire quelque chose ou de faire un voyage dans son propre souvenir, et de se dire tiens, ça me rappelle la peau de mon enfant, par exemple. Est-ce que le parfumeur lui-même sait qu'en majorité, par exemple, est-ce qu'il y a un côté commercial ? Je veux dire, est-ce que tout à coup cette recherche du voyage parfumé va déboucher sur le fait de dire cela va correspondre à 90% des souvenirs des gens ?
Difficile à dire, parce qu'au fond, comme vous disiez, chaque souvenir est plus subjectif. C'est vraiment la subjectivité même, parce qu'on retient de ses voyages, de son enfance, de ses études, enfin de son environnement, on retient chacun quelque chose qui est différent du voisin.
Est-ce que vous m'autoriseriez à faire un voyage à travers vos souvenirs de parfumeur ?
Oui, je vous en prie.
Mais de remonter même avant que vous soyez parfumeur ?
Avant même, si vous voulez.
Nous avons déjà évoqué plusieurs pays, nous avons fait plusieurs fois le tour du monde avec Jean Adorne, parce qu'un nez, ça vous oblige à vivre au Brésil, à découvrir l'Argentine, la Louisiane, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, New York, et puis tout l'Orient. Et chaque fois que j'évoque un nom de pays, un nom de région, immédiatement, il y a justement, parce que nous parlons, parce que nous vous écoutons, l'envie de découvrir une odeur, un parfum. Or, quand je dis, par exemple, puisque nous parlions d'épices, coriandre ou thym, voilà deux thèmes qui nous n'avons peut-être pas terminé avec le cumin, mais au fond, chaque fois que je prononce un mot, il y a derrière un pays ou un endroit. Si je vous disais thym ou la première fois où vous avez senti une odeur épicée, où est-ce que ça nous emmènerait ?
Ça doit remonter loin, ça. Où ça nous amènerait, c'est peut-être la première fois que j'ai senti des piments. Ma mère avait acheté un jour un petit bocal de piment. Je ne rappelle plus pour quelle recette qu'elle avait découverte ou qu'elle voulait faire. Et indépendamment, bien sûr, du goût brûlant, j'avais mis mon nez dessus parce que je ne peux pas dire que j'avais déjà l'idée de devenir parfumeur, mais j'étais assez attiré par tout ce qui sentait. J'adorais l'arôme magie, par exemple, quand j'allais me balader pour aller chercher des courses que ma mère m'envoyait chercher. Et je trouvais magnifique cette odeur. Alors, les piments, pour moi, ça a été peut-être la première odeur qui m'a entraîné très loin. Je ne savais pas d'ailleurs, c'est plus tard que j'ai su que ces piments venaient la plupart du temps du Mexique, c'est vrai. Et j'ai retrouvé un petit peu cette même émotion, si on peut dire, le jour où j'ai vu pour la première fois ou senti pour la première fois ces fameuses graines de cardamome. Vous savez, ce sont des graines que les pays d'Indonésie notamment utilisent dans le café, dans le thé. Elles sont vertes quand elles sont fraîches, et lorsqu'elles sèchent, elles perdent leur pulpe,
leur enveloppe,
et elles deviennent un peu plus brunâtres. Mais elles ont, elles aussi, une odeur qui est à la fois épicée, à la fois verte, à la fois fraîche, et très caractéristique. Et là aussi, on a l'impression qu'on s'entraîne très loin.
Mais dans les distances, là, j'évoquais le thym, par exemple.
Le thym, est-ce que c'est vraiment une épice? Le thym, pour un des parfumeurs, c'est plutôt une plante aromatique. C'est une plante qui immédiatement nous conduit en Corse, nous conduit en Tunisie, nous conduit en tout cas au bord de la Méditerranée. On est immédiatement soit dans les morts ou bien... Ça a fait partie de cette odeur de garrigue, de maquis, auquel on peut ajouter lorsqu'on est en Corse la myrte, par exemple. Et la Corse, vraiment, m'a laissé un souvenir magnifique d'odeur inhabituelle peut-être pour nous ici dans notre Suisse, et c'était des odeurs qui évoquent pour moi chaque fois que j'y pense les vacances.
En plus de cela,
la baie de Porto.
Il y a une température.
En plus, il y a les eucalyptus à Porto.
Porto, eucalyptus, thym. Il fait plus de 30.
À Porto, Portugal, Porto de Corse.
Porto de Corse, voilà. C'était bien compris. Mais une température qui monte, et puis en même temps, il y a toujours le son avec le thym. Vous les entendez, ces cigales?
Oui.
C'est vrai qu'il y a toujours ce fond, ce crissement continu, et cette espèce de sifflement, ce chointement continu.
On finit par le perdre, d'ailleurs.
Mais quand on repense au thym, on l'entend encore. Donc, ce que je voudrais simplement que nous fassions maintenant, en évoquant simplement, comme ça, au pur hasard, quelques noms, c'est faire comprendre, en fait, à tout un chacun que chaque fois que l'on évoque un parfum, quel qu'il soit, il y a obligatoirement un voyage.
Ah, forcément, parce que, une fois de plus, je crois l'avoir déjà dit il y a quelques émissions, les principaux ingrédients naturels utilisés en parfumerie, en tout cas 98% peut-être, sont tous cultivés ou poussent sous la ceinture subtropicale, entre les deux tropiques. Alors on se trouve chaque fois transporté, on se trouve chaque fois obligé de partir vers un pays, vers quelque chose. On parlait des épices, et je vous ai dit hors antenne, c'est que beaucoup de ces épices commencent par la lettre C. Cardamome, cumin, carvi, cannelle, coriandre. Et c'est, disons, une facilité dans l'arsenal du parfumeur, parce que lorsqu'on se trouve devant un orgue, on a la lettre C, et bon, ben, ils font exception piment, poivre, mais vous vous retrouvez avec quelque chose qui est tout bloqué sur la même étagère. Alors, vous voyagez tout seul, la cannelle, vous allez à Ceylan, vous allez à Formose, vous imaginez les cigarettes parfumées à la feuille de cannelier, ces fameuses cigarettes dites crétec. Épouvantable d'ailleurs. Moi, je ne fume pas, mais un jour, j'ai essayé la cigarette crétec. Vous me direz qu'à chez nous, on a les cigarettes à la menthe. Le coriandre, c'est très connu parce que c'est un des ingrédients du curry. Et on est en Inde. On est déjà dans un voyage. C'est un programme d'une agence de voyage.
Quand vous évoquez un pays, Jean Adorne, est-ce que vous l'avez certainement déjà fait, est-ce que souvent vous partez à cause justement d'un problème de parfumerie? Je veux dire par là, est-ce qu'en principe, lorsque vous voyagez, vous venez d'évoquer l'Orient, par exemple la cannelle ou l'Inde avec tout ce qui deviendrait un curry, est-ce qu'au fond, vous voyagez en fonction de votre odorat ou de votre idée du parfumeur?
Je crois, enfin, si j'ai bien compris, il me semble que ce serait plutôt l'inverse. C'est l'odorat qui me fait voyager.
Mm-hmm.
Si vous voulez, chaque fois que je pense ou que je lis ou que j'entends parler d'une essence olfactive quelconque qui a une origine lointaine, ça, immédiatement on voyage par l'esprit. Même si on n'a pas fréquenté ces pays, qu'on n'en a pas une connaissance approfondie, on a toujours des images qui viennent de toute la culture littéraire ou photographique que l'on peut avoir.
Par votre travail, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir l'obligation, là, on a évoqué plusieurs continents, d'aller chercher un produit ou de vous intéresser à la production d'un produit?
Pas à l'échelon du continent.
Mais pour un pays, oui.
Pour un pays, oui, j'ai eu l'occasion pour les qualités que nous recherchions, de faire plusieurs voyages, notamment dans le midi de la France, dans les régions de Vaucluse, pour les recherches concernant les meilleures qualités possibles de lavande, de qualité de lavande, et accessoirement d'autres produits. Justement, il y avait des produits qui, eux, sont plus alors du domaine de la pharmacie. L'immortel, par exemple, des produits qui étaient à la fois, qui sont quelquefois souvent des infusions ou des tisanes, mais qui sont utilisées en parfumerie. Ça m'est arrivé. Par contre, quand j'étais en Amérique du Sud, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de parcourir notamment le Brésil pour voir où se trouvaient des cultures nouvelles de produits, de plantes nécessaires à la parfumerie qui avaient été amenées là dans le dessein d'en faire un revenu agricole possible. Et là, du côté de Bauru notamment, par exemple, qui est une ville qui se situe à environ 300 kilomètres à l'intérieur des terres, à la hauteur du tropique du Capricorne, c'est-à-dire San Paolo. Et là, il y avait d'énormes plantations de ce fameux vétiver dont on a déjà parlé, qui maintenant, j'ai appris 20 ans plus tard, a pris une extension considérable.
Donc vous avez une région entière avec ce chien-dent si odorant. Et puis, est-ce qu'à côté, vous avez dû en même temps concevoir l'idée de la distillation des racines et des radicelles et tout?
Il a fallu mettre sur pied. Là, j'avais participé à des études justement à cette époque où on cherchait celui qui faisait cette culture nouvelle pour la région cherchait le plus de collaboration possible pour trouver la meilleure solution possible à son problème de production.
Vous sous-tendez par là qu'en parfumerie, on peut parler en milligrammes, en grammes, mais aussi en tonnes.
Ah oui, bien sûr. Mais écoutez,
oui.
La lavande. Et le lavanda, c'est une production d'un millier de tonnes par an.
Impressionnant.
Thank you.
voyage sans forcément faire de longues distances, mais ce qui est plaisant avec Jean Adorn, c'est que je crois que c'est justement ce déclic intérieur qui se produit dans notre cerveau, où chaque mot évoqué, chaque épice, nous fait faire notre propre voyage. Après tout, aujourd'hui, à cette occasion, chacun fait son propre long cours en évoquant ses propres souvenirs. Parce que je crois que c'est ce qui est de plus déterminant, c'est que chaque fois que nous évoquons quelque chose, chacun fait sa propre évocation. Et je sais pas, on pourrait être par exemple en pleine campagne, juste au moment où le soleil se couche, et là vous êtes en train de conduire, pourquoi pas une décapotable, ce serait sympathique, ou alors vous vous baladez sur un cheval, et vous sentez ce qui est autour de vous. Il y a l'herbe fauchée, tiens. Voilà, déjà dans une saison, dans un climat, dans un endroit précis. Je pourrais dire le chèvrefeuille, ah, ça c'est ailleurs. La menthe verte, elle était dans votre cigarette tout à l'heure. Elle peut être ailleurs si elle est poivrée, par exemple. Mais je dirais du blé, ou le moment où l'on va faucher le blé. Vous voyez, la saison avance déjà. Je pourrais dire l'échalote. Vous êtes au jardin, il se produit quelque chose. Ou alors vous êtes carrément dans une production. Nous parlions de tonnes tout à l'heure et tout à coup nous voilà devant des champs à l'infini avec, je ne sais pas, la chicorée a aussi une odeur très curieuse. Et puis tout à coup je reviens à des odeurs beaucoup plus gênantes. L'engrais, parce qu'on est en train de dépendre. Et oh, puisque nous étions en train de rouler, il y a le goudron qui se retrouverait sur notre route. Avec le côté un peu macadam cowboy. Et puis, quand on voit tout cela, enfin, ces quelques petites évocations, c'est pour dire qu'en fait, au début de notre évolution, c'est vrai qu'on ne voyageait pas pour le plaisir. Hein. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est du rêve. Ce que nous essayons d'évoquer, c'est justement de la jouissance. Mais au début, il fallait se nourrir. Et je pense que l'odorat, c'était quand même quelque chose de tout à fait essentiel pour un homme. Et il y a des choses assez curieuses, d'ailleurs. Quand on réétudie notre odorat au passé, c'est que à partir des premières formes marines, on est devenu ensuite, en sortant de l'eau, si j'ose dire, des nomades. Et on est allé, bien sûr, à la recherche de sa nourriture. Il a fallu chasser, il a fallu choisir ce qui nous plairait le plus. Et là, il y a un côté instinct, bien sûr. Et dans toutes les versions, disons, que l'on pourrait avoir de l'humanité, sans forcément parler à Darwin, eh bien, on remarque aussi qu'il y a quand même cet odorat incroyable qui fait que nous évoquions tout à l'heure des odeurs un peu plus acides, un peu plus humaines. Après tout, un mâle cherche une femelle dans la nature à quelques stades de la vie. C'est une chose qui a passé par l'odorat. Alors, évoquer tout cela, c'est quand même s'imaginer qu'en même temps, je pourrais être le petit poisson qui, grâce à mon odorat, peut-être aurait peur du requin ou du barracuda. C'est quand même quelque chose d'essentiel, Jean Adorn.
Ça reste à prouver que le poisson ait une attractivité odorante. Mais je crois quand même que ça peut être, en tout cas on peut émettre l'hypothèse qu'il a un certain sens olfactif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai très longtemps été, comme tout un chacun, un modeste pêcheur à la ligne.
Oui.
Et on vous racontait, j'habitais la France à ce moment-là, et on vous racontait toutes sortes de choses sur la façon d'appâter avec des boulettes de pain, enfin des boulettes de pommes de terre, enfin des choses comme ça. Et j'ai fait des essais, non pas systématiques, mais parce que j'avais lu dans certaines notices qu'il y avait des attractivités éventuelles, alors on avait essayé, et j'ai vu que depuis ça s'est pratiqué, les odeurs anisées.
Oui.
Alors on trempait les miettes de pain dans un apéritif très connu, avant de les envoyer là.
Allez-y, un peu de pastis ne fait de mal à personne.
Comme vous dites. Et puis après...
D'ailleurs j'avais déjà planté le décor, et j'étais sûr alors, que vous étiez dans un pays qui était plutôt chaud.
J'ai essayé ensuite des choses, alors dont on a abondamment parlé il y a quelques temps, on m'avait dit, les odeurs disons un peu fécales, enfin de cette sorte, pouvaient attirer les poissons. Alors j'ai essayé la civette, la fameuse civette, je faisais des boulettes avec la civette. J'ai jamais pu démontrer d'une manière absolue que le poisson
avait un odorant
un peu plus attiré. Mais il est incontestable que, la quantité de poissons que l'on prenait n'était pas tellement, tellement plus importante que l'on puisse dire absolument que... le poisson était attiré par l'odeur.
Mais en fait, quand on parle, puisque nous sommes partis dans l'eau, là, il y a des phrases comme ça qui me touchent. Quand on dit « nous pensons parce que nous sentons ».
Oui, et puis le mot « sentir », d'ailleurs, il a toutes sortes de significations. Hein. Je ne me sens pas bien. Comment vous sentez-vous? etc. Ce sont des mots qui ont repris le vocable olfactif pour l'appliquer à toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec l'odorat. Probablement parce que justement l'odorat a eu à l'aurore de l'humanité une importance considérable.
C'est ce côté originel, ce côté, on disait océanique tout à l'heure, mais après tout, votre métier n'est rien d'autre que de dissoudre quelque chose dans une solution aqueuse, non?
Bon, ben vous le mettez, vous le rabaissez à un rang.
Non, mais...
Moi je prétends que c'est un art.
Je suis pour l'art, absolument. Non, mais attention, ce que je voulais dire par là, c'est qu'au fond, ce qui est quand même extraordinaire dans l'idée du parfumeur, c'est qu'au fond, à partir d'une chose solide, il doit d'abord passer par le liquide pour que ça redevienne quelque chose d'important. Et c'est là que je voulais mettre plutôt la note chargée du parfumeur, oui. C'est-à-dire que votre art consiste quand même à transformer, grâce à l'idée de l'eau, du liquide, en tout cas de l'alcool ou de ce qui est aqueux, de transformer quelque chose de solide en solution, parce qu'il
c'est
y a bien
pas une transformation, c'est prendre dans cette chose solide la partie qui a un pouvoir odorant quelconque. C'est au fond une séparation de la constitution du végétal ou du produit que l'on veut travailler, si vous voulez. On sépare les deux principaux constituants de la matière.
Et pour que nos membranes muqueuses puissent absorber un parfum,
il faut que ce soit quelque chose de physique. Oui, d'accord, tout à fait. Mais le parfum, c'est une affaire physique.
Oui, non, là, je vous suis très bien, mais c'était par rapport à votre idée de votre poisson de tout à l'heure. Ce qui m'intrigue quand même, c'est qu'à part le fait que le parfum soit une chose physique et dure, si vous voulez, ce qui est quand même étrange, c'est que notre muqueuse exige cette humidité.
Oui.
Donc au fond, le côté animal remonte beaucoup plus loin. On a besoin d'être liquide, dans le sens presque onirique du terme, pour être vraiment odeur.
C'est vrai, puisque nous sommes constitués d'une la majeure partie d'eau. Alors évidemment, l'eau doit jouer un certain rôle là-dedans.
Parce que quand je dis vu, quand je dis oui, ou même toucher, ça remonte moins loin.
C'est-à-dire que comme l'odorat est un sens chimique, l'importance de l'eau est beaucoup plus grande.
Oui, mais
c'est
pas
un
quand
sens
vous
dites
chimique, on pourrait dire alchimique, c'est-à-dire qu'on a l'impression de retourner à quelque chose...
Oui, mais quand je dis chimique, il y a une réaction chimique qui se produit avec une impulsion électrique qui est déterminée par cette réaction chimique, alors que le sens de la vue, le sens de l'ouïe, et ce sont des sens physiques, c'est des vibrations d'une membrane ou des vibrations lumineuses, un certain rayon lumineux, qui frappe votre rétine. C'est pas du tout la même chose. Alors, le fait que ce soit un sens chimique introduit probablement la notion absolue de la nécessité de l'humidité, la nécessité de l'eau. D'ailleurs, la muqueuse olfactive est toujours humide.
Vous avez parlé tout à l'heure de la civette, et je crois que ce n'est pas forcément un voyage, mais qu'il y a en même temps chez l'homme, en tout cas l'homme moderne, des peurs, voire des espèces de qu'est-ce que je vais dire, de paranoïa. Parce qu'au fond, vous êtes peut-être un peu responsable aussi de certains détails qui nous touchent. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé civette, on a parlé d'odeurs naturelles, et puis il y a ensuite ce que j'appellerais les odeurs artificielles. Et en fait, ce côté paranoïa, je crois que ça rapporte quand même aux parfumeurs. C'est-à-dire l'idée de nous faire croire quand même que toute odeur naturelle est offensante. Enfin, que tout ce qui sent soi-disant mauvais ou qui nous appartient totalement en tant qu'être humain sont des odeurs négatives et qu'en fait, il faut des lotions, il faut des potions. Vous avez vous-même utilisé tout à l'heure le terme de masque. Il y a quelque chose de travesti dans le parfum qui, au fond, est assez dérangeant parce qu'un enfant aime pratiquement toutes les odeurs jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il y en a certaines qui sont mauvaises.
C'est vrai ça, mais vous dites que le parfumeur a tendance à oublier ou à nier ou à les rendre négatives, si vous voulez, toutes ces odeurs mauvaises.
Non, mais disons qu'il l'utilise.
Il les utilise, mais parcimonieusement, parce qu'elles n'apportent pas, pour la civilisation que nous vivons, un plus. Elles sont plutôt négatives, précisément, peut-être à cause de l'environnement que nous avons, je ne sais pas. Mais c'est clair que quand on fait un voyage dans le temps et qu'on voit ce que qu'on arrive à trouver dans des documents, les odeurs qui plaisaient aux gens du XVIe ou même beaucoup plus loin du temps des Romains ou encore plus loin du temps de la Chine ancienne, la Chine millénaire, on se trouve devant des aberrations par rapport au goût olfactif actuel. Je vous ai dit un jour qu'en Chine, par exemple, c'était les odeurs d'ail et d'oignons sauvages qui étaient considérées comme le sommet. Sous Henri IV, c'était les harengs sors. Ça passait pour être quelque chose de magnifique, puisque Henri IV avait un collier qui était dans sa poitrine velue, paraît-il. Il avait un collier de harengs sors enfilé, n'est-ce pas, pour conjurer le mauvais, sans jeu de mots, le mauvais sort.
Eh bien, je vous assure que lors de ce long cours, je suis sûr qu'il y a quelques nez qui sont en train de se relever. À notre façon de sentir, là, tout à l'heure, enfin, nous avons relevé plusieurs fois le nez au cours de notre départ de long cours, et Jean Adam nous a évoqué toutes sortes d'odeurs. On a commencé par découper un pigeon en petits morceaux, mais quand on dit que, quand on sait d'ailleurs que nous, en tant qu'êtres humains, on a à peu près 5 millions de cellules, ces fameuses cellules olfactives, bah, je sais pas, moi j'ai calculé sur le bout du nez de mon chien combien il en avait, je suis quand même arrivé à 220 millions. Ça nous prouve qu'on est quand même étant grand parfumeur et ayant tout le respect pour votre profession, un chien doit avoir un éventail encore plus impressionnant que nous, non?
Il a un éventail certain, un éventail de perception et d'analyse analytique beaucoup plus grand que le nôtre, probablement parce que nous on devait l'avoir à l'origine. Sûrement qu'à l'origine, la muqueuse olfactive de l'homme était beaucoup plus développée qu'elle ne l'est actuellement. Et il faut dire que l'homme préhistorique, ou même avant, là, pratiquement aux origines de l'humanité, les premiers êtres vivants devaient avoir des odorats très développés pour pouvoir se nourrir. C'était la chasse partait de là. Il fallait flairer dans le vent qui vient la proie éventuelle.
Ce que nous évoquions tout à l'heure.
Qui pouvait se situer à combien de distance.
Trouver le premier barracuda volant.
Exactement. Et je crois que l'odorat de l'homme s'est malheureusement atrophié. C'est pour ça qu'on en a beaucoup moins que le chien. Mais le chien, lui, son voyage olfactif, il est probablement plus quantitatif que qualitatif. Encore que ça reste à prouver, puisqu'il arrive à reconnaître une odeur qu'on lui a au premier abord inscrite en lui montrant quelque chose qui est l'odeur de ce qu'on veut qu'il cherche.
Un chien d'avalanche, c'est quelque chose d'éblouissant par rapport à cela.
C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que leur perception est en fonction de la différence de perception, de la différence du nombre de cellules olfactives qu'ils peuvent avoir.
Oui, parce
donc,
que
c'est
y
dans
y
la
y
même proportion.
Il y a tout ce monde mouvant du parfum qui est étrange. Je sais qu'on a, malheureusement, vous l'avez dit, un organe ou des organes olfactifs un peu petits. Mais on a quand même un odorat assez remarquable parce que lorsqu'on voit la forme même de ce qui fait ce cinquième sens, c'est-à-dire le côté saillie de notre nez, il y a un chemin que parcourt le parfum extraordinaire quand même que vous aurez produit, et non pas la palette un peu étrange que nous avons évoquée, bien que je pense qu'on peut revenir à des formules chinoises ou se retrouver à la cour du hareng sort de tout à l'heure. Les parfums évoluent aussi, mais le parcours que fait le voyage, que fait un parfum pour arriver jusqu'aux cellules, c'est quelque chose qui fait justement que, par exemple, on pourrait, froncer le nez ou renifler, ce qu'on fait volontiers, et ceci amène en fait les molécules d'odeur plus près de ces récepteurs.
C'est plus que ça. Vous êtes obligé de respirer, et c'est d'ailleurs une des énigmes qu'on a réussi à résoudre il y a quelques années, justement en étudiant très près l'odorat. On est parti de l'idée que en essayant d'expliquer pourquoi il fallait qu'on respire, on est parti de l'idée qu'il fallait que toutes les cellules olfactives soient atteintes, et par conséquent, pour faire l'analyse en quelque sorte de l'impression qui vous vient, et pour faire cette analyse, il fallait que au fond la muqueuse et ses cellules soient recouvertes entièrement par le
souffle.
Le souffle, et non, plutôt par la molécule odorante, et que c'était l'inspiration qui conduisait ce passage.
Mais quand on voit un peu la tendance actuelle des parfums, là, j'imagine ces molécules dans l'espace. C'est vrai que, par exemple, je remarquais l'autre jour que pour un parfum que j'aimais beaucoup, il y avait par exemple une altitude dans l'espace d'une pièce. C'est un détail, mais on a l'impression, par exemple, quand on est assis à la hauteur des gens, on ne sent pas un parfum, et quand on se lève, par exemple, on le sent mieux. On a l'impression que les molécules sont...
L'air chaud monte.
Peut-être. Les molécules se déplacent aussi de certaines manières. C'est tout un voyage. Mais en fait, je voulais parler de l'actualité du parfum, et qu'au fond, dernièrement, j'ai l'impression qu'on a utilisé souvent une notion nouvelle, qui est celle du danger, je dirais même le côté un peu interdit. Il y a quelque chose de pas de névrotique, mais enfin il y a une idée de névrose parfois dans l'usage actuel des, peut-être pas des molécules de parfum, mais peut-être des noms de baptême aussi des parfums, et les promoteurs, ben, je trouve qu'ils essayent autre chose. Il y a plus seulement cette idée de sécurité. Quand je dis sécurité, amour, idylle, on pense obligatoirement à des fleurs, à des choses très très belle époque, très très légères, très fraîches, des odeurs très fraîches. Mais aujourd'hui, c'est vrai que inventer poison, par exemple, c'est tomber dans l'illégalité, c'est tomber dans le péché, dans l'obsession, dans le côté tabou. Enfin, ce sont des noms de parfums, justement.
Oui, ça reste quand même dans la symbolique actuelle. Ça reste dans tout ce qui nous environne. Et au fond, poison, il faut bien dire, pour le citer, a été fait justement avec une arrière-pensée commerciale. Il y avait eu, quelques années auparavant, un parfum non moins célèbre qui portait un nom... je ne nommerai encore une fois pas, parce que je ne veux pas m'attirer des ennuis avec les importateurs, mais c'est sûr qu'il y avait eu un parfum célèbre qui avait un nom, et il fallait tourner là autour de la même symbolique, d'une espèce de symbolique.
On va le savoir, ce nom. Pourquoi est-ce qu'on ne le saurait pas?
Si vous le devinez...
On peut le savoir?
Alors, c'est l'opium.
Mais oui, justement, parce que c'est vraiment l'opium est quelque chose qui est évoqué de la même manière que...
Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas eu une démarche commerciale, une démarche un peu commerciale derrière l'appellation poison?
Sûrement, parce qu'opium, c'est ce côté intoxicant quand même. Moi, je crois qu'il y a une volonté assez curieuse. Mais vous, en tant que nez, est-ce que vous recherchez justement, derrière le nom qu'on vous impose d'abord, à créer cette ambiance curieuse?
Sûr que le nom a de l'importance, il faut que ça colle avec. On ne peut pas, si vous voulez, dans l'optique du concepteur de ce parfum que nous venons de nommer, le poison, il y avait l'idée qu'il fallait que ça fasse une publicité telle, au besoin pour être quelque peu dérangeant pour l'environnement. Il fallait comme ça attirer l'attention sur cette odeur.
Donc vous finirez par être un peu chinois et peut-être à chercher du côté des poissons
Vous savez, on y vient doucement à ces odeurs qui ont fait l'origine de l'humanité. Quoi.
Alors donnez-moi un dernier exemple du dernier parfum qui vous aurait surpris. C'est-à-dire, j'aimerais qu'en tant que nez, vous me disiez, tiens, j'ai découvert comme grand parfum, celui qui l'a créé a vraiment créé une petite révolution aussi. Et ensuite, vous me donnez votre recette.
Révolution actuelle, je ne pense pas qu'il y en ait. Mais il y a des idées qui se font jour à travers des directions nouvelles. Et l'actualité, par exemple, c'est la nature. Environnement naturel, toujours cette histoire un peu de l'écologie, de la vie de plein air. Qui dit plein air dit soleil, dit sable, dit mer. Et maintenant, la mode, c'est les produits extraits des algues. C'est la mode parce qu'on se retrouve un petit peu iodé. On est dans ses vacances estivales, on est sur une plage, aux Caraïbes où vous voulez, mais enfin, il y a l'océan, la mer, et tout ça est entré dans un concept de parfumage qui, peu à peu, se fait jour pour donner une direction tout à fait nouvelle, cette direction, justement, d'échapper à une symbolique trop formelle du parfum.
Donc, vous voulez dire par là qu'on est capable d'être écologique au moment où il faut l'être, par exemple ?
Je crois.
Mais alors, si je reprends cette dernière idée du poison, ou plutôt de l'opium, après tout, opium, moi, le moment où j'ai mis mon nez sur opium, je me suis dit que ça n'a rien de révolutionnaire, puisque ça ressemble à cinnabar.
C'est vrai, mais de toute façon, c'était quelque chose qui était dans la notion de l'époque, qui en sortait, il n'y a pas si longtemps en arrière, de mai 68, des lindes, etc. Et tout ça a fait, avec cette culture, si on peut dire, cette culture hippie, on en était arrivé à l'amour de tout ce qui était oriental, de ce qui était les anciens parfums, l'encens, la myrrhe, tout ça. Et ça obligeait à concocter un parfum dans cette éthique-là, c'est-à-dire l'idée, l'Inde ancienne.
Mais, donc, oui, je comprends, mais ce que je voulais dire en parlant de cinnabar, c'est qu'au fond, très souvent, on fait une nouvelle version de quelque chose.
Ah, c'est pas tout à fait juste. Non. Peut-être que c'est une espèce d'inspiration, mais je ne dis pas que c'est une nouvelle version. C'est dans le même thème, mais vous pouvez de toute façon traiter un thème, quel qu'il soit, de 10 manières différentes.
Est-ce que vous-même...
Parce qu'on peut aller plus loin, à ce moment-là, c'est le thème Chalimard. Alors, on est encore 40, 50, 60 ans plus tôt.
Vous voulez dire par là que comme nous avons évoqué Coco Chanel, les versions, en fait, ça voudrait quand même dire que par rapport à tout ce que nous venons de faire, c'est-à-dire on a donné des recettes à quelque part, on est parti du vétiver, on a fait le patchouli, la vanille, lors d'une première rencontre, nous avons évoqué la rose, le jasmin, la violette, la lavande, et maintenant, là, on vient de travailler sur le cumin, le persil, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que de penser qu'on a utilisé la carotte, la sauge, le thym, ceci nous prouve que vous avez quand même, vous me disiez, je crois, un millier de possibilités de départ, c'est-à-dire d'ingrédients pratiquement.
Oui, pratiquement, oui.
Et est-ce que sur le plan...
Beaucoup se ressemblent d'ailleurs. Il y a des odeurs qui sont simplement des nuances. Mm-hmm. Il y a des grands types, mais le reste, ce sont souvent des nuances.
Est-ce qu'on pourrait faire une dernière comparaison ? Ce serait celle qui, moi, me paraît déjà étrangement magique. Est-ce que vous êtes en train de faire systématiquement ce que font tout grand musicien, c'est-à-dire de la musique ?
Qu'entendez-vous par là ?
C'est qu'au fond, vous avez une gamme relative, et puis à partir de là, vous pouvez tout inventer de la chanson de Midinette à la grandeur
classique.
Ah, exactement.
Oui. Exactement. Au fond, la panoplie de départ est assez étendue pour permettre toutes sortes de transformations et arriver à toutes sortes d'odeurs. Arriver à une odeur qui est acceptée. Le problème,
c'est
qu'on a une finalité. Oui, mais on a une finalité beaucoup plus commerciale que la musique.
Vous pensez ? Parce qu'au fond, un musicien pense aussi à vendre son produit aujourd'hui.
Oui.
Les temps changent.
Mais sa musique se vend un peu par personne interposée, si je puis dire. Par l'interprétation qu'on en fait. Tandis qu'une fois que le flacon est fait avec son parfum dedans, il reste fixe, il n'y a personne qui vient le transformer. Tandis que vous pouvez avoir une symphonie qui est tout à fait différente, conduite par un chef d'orchestre ou par son homologue étranger ou d'ailleurs.
Jean Adorne, est-ce que vous parfumez ?
Oui.
Et quand vous travaillez ?
Oui.
Également ?
Oui, parce qu'on ne se sent plus.
Alors expliquez-moi
cela. De toute façon, on fait abstraction de l'odeur de fond.
On a tous ce même problème d'ailleurs, d'oublier son parfum.
On l'oublie parce que l'odorat est saturé.
Quand vous dites saturé, ça veut dire que le voyage s'arrête à un moment donné ?
Oui, il s'arrête. Il faut changer d'odeur pour le faire repartir.
C'est quelque chose d'étrange quand même, parce que nous étions partis lors d'une de nos premières rencontres sur la violette, qui avait justement cette faculté de couper les odeurs. Enfin, le...
Oui, ça c'est un phénomène, somatique. Parce que la cellule réagit d'une, les cellules olfactives réagissent d'une certaine manière à l'odeur de violette. L'autre que nous venons évoquer, l'autre phénomène d'oubli, si l'on peut dire, c'est un phénomène de, et de saturation, c'est un phénomène parce que la muqueuse a beaucoup travaillé dans une odeur déterminée et tout d'un coup elle ne peut plus absorber les odeurs parce qu'il y a effectivement une saturation d'une certaine molécule odorante. Elle s'arrête, il faut sortir, respirer un bon coup. Donc nettoyer la muqueuse olfactive et on commence.
Si je devais vous demander une dernière note par rapport à notre morceau musical.
Une dernière note comment, pure ou une harmonie?
Oh, je pense pure.
À la note pure. Et qu'entendez-vous par dernière note? C'est-à-dire la note que je...
La vôtre, celle que vous avez maintenant dans votre nez.
Dans mon nez, ben immédiatement je pense au jasmin, je ne sais pas pourquoi.